Chapitre 3 Les trois Philippe. L'unique fenêtre de la salle basse du cabaret de la Pomme d'Adam donnait sur une sorte de glacis planté de hêtres qui aboutissait aux douves de Quélus. Un chemin charretier traversait le bois et aboutissait à un pont de planches jeté sur les fossés qui était très profond et très large. Il faisait le tour du château de trois côtés et s'ouvrait sur le vide au-dessus du hachaz. Depuis qu'on avait abattu les murs destinés à retenir l'eau, le dessèchement s'était opéré de lui-même, et le sol des douves donnait par année deux magnifiques récoltes de foin, destinées aux écuries du maître. La seconde récolte venait d'être coupée. De l'endroit où se tenaient nos huit estafiers, on pouvait voir les faneurs qui mettaient le foin en botte sous le pont. À part l'eau qui manquait, les douves étaient restées intactes. Leur bord intérieur se relevait en pente roide jusqu'au glacis. Il n'y avait qu'une seule brèche, pratiquée pour donner passage aux charrettes de foin. Elle aboutissait à ce chemin qui passait devant la fenêtre du cabaret. Du rez-de-chaussée au fond de la douve, le rempart était percé de nombreuses meurtrières. Mais il n'y avait qu'une ouverture capable de donner passage à une créature humaine. C'était une fenêtre basse, située juste sous le pont fixe, qui avait remplacé depuis longtemps le pont-levis. Cette fenêtre était fermée d'une grille et de forts contrevents. Elle donnait de l'air et du jour à l'étuve de Quélus, grande salle souterraine qui gardait des restes de magnificence. On sait que le Moyen-Âge, dans le Midi principalement, avait poussé très loin le luxe des bains. 3 heures venaient de sonner à l'horloge du donjon. Ce terrible matamore qu'on appelait le beau Lagardère n'était pas là en définitive, et ce n'était pas lui qu'on attendait. Aussi nos maîtres en fait d'armes, après le premier saisissement passé, reprirent bientôt leur forfanterie. « Eh bien, s'écria Saldagne, je vais te dire une chose, ami Cocardas. Je donnerai 10 pistoles pour le voir, ton chevalier Lagardère. » « L'épée à la main ? » demanda le Gascon, après avoir bu un large trait et fait claquer sa langue. « Eh bien, ce jour-là, mon bon, ajouta-t-il gravement, sois en état de grâce, et mets-toi à la garde de Dieu. » Saldagne posa son feutre de travers. On ne s'était encore distribué aucun orion. C'était merveille. La danse allait peut-être commencer, lorsque Stopitz, qui était à la fenêtre, s'écria. « La paix, enfant ! Voici monsieur de Pérolles, le factotum du prince de Gonzague. » Celui-ci arrivait en effet par le glacis. Il était à cheval. « Nous avons trop parlé, » dit précipitamment Passepoil, « et nous n'avons rien dit. Nevers et sa botte secrète valent de l'or, mes compagnons. Voilà ce qu'il faut que vous sachiez. Avez-vous envie de faire d'un coup votre fortune ?» Pas n'est besoin de dire la réponse des compagnons de Passepoil. Celui-ci poursuivit. « Si vous voulez cela, laissez agir maître Cocardas et moi. Quoi que nous disions à ce Pérolles, appuyez-nous. »« C'est entendu » s'écria-t-on en chœur. « Au moins, acheva frère Passepoil en se rasseyant, ceux qui n'auront pas ce soir le cuir troué par l'épée de Nevers pourront faire dire des messes à l'intention des défunts. » Pérolles entrait. Passepoil ôta le premier son bonnet de laine bien révérencieusement. Les autres saluèrent à l'avenant. Pérolles avait un gros sac d'argent sous le bras. Il le jeta bruyamment sur la table en disant « Tenez, mes braves, voici votre pâture !» Puis les comptant de l'œil. « À la bonne heure, » reprit-il. « Nous voilà tous au grand complet. Je vais vous dire en peu de mots ce que vous avez à faire. » « Nous y comptons, mon bon monsieur de Pérolles, » repartit Cocardas en mettant ses deux coudes sur la table. « Et donc ?» Les autres répétèrent. « Nous écoutons. » Pérolles prit une pause d'orateur. « Ce soir, » dit-il, « vers 8 heures, un homme viendra par ce chemin que vous voyez ici, juste sous la fenêtre. Il sera à cheval. Il attachera sa monture au pilier du pont, après avoir franchi la lèvre du fossé. Regardez, là, sous le pont. Apercevez-vous une croisée basse ?» Fermé par des contrevents de chêne ?»« Parfaitement, mon bon monsieur de Pérolles, » répondit Cocardas. « À ce pas pur, nous ne sommes pas aveugles. » L'homme s'approchera de la fenêtre. Et à ce moment-là, nous l'accosterons ?
Poliment, interrompit Pérol avec un sourire sinistre.
Et votre argent sera gagné.
Capé des bioux ! S'écria Cocardas. Ce bon monsieur de Pérol, il a toujours le mot pour rire.
Est-ce entendu ?
Assurément.
Mais vous ne nous quittez pas encore, je suppose.
Mes bons amis, je suis pressé, dit Pérol en faisant déjà un mouvement de retraite.
Comment ? S'écria le Gascon. Sans nous dire le nom de celui que nous devons accoster ?
Ce nom ne vous regarde pas.
Cocardas cligna de l'œil. Tout aussitôt, un murmure mécontent s'éleva du groupe des estafiers. Passepoil, surtout, se déclara formalisé.
Sans même nous avoir appris, poursuivit Cocardas, quel est l'honnête seigneur pour qui nous allons travailler ?
Pérol s'arrêta pour le regarder. Son long visage eut une expression d'inquiétude.
Que vous importe ? Dit-il en essayant de prendre un air de hauteur.
Cela nous importe beaucoup, mon bon monsieur de Pérol.
Puisque vous êtes bien payé.
Peut-être que nous ne nous trouvons pas assez bien payés, mon bon monsieur de Pérol.
Qu'est-ce à dire, l'ami ?
Cocardas se leva, tous les autres l'imitèrent.
Capé des bioux, mon mignon !
Dit-il en changeant de ton brusquement.
Parlons franc. Nous sommes tous ici prévôts d'armes, et par conséquent gentilhommes. Moi surtout, qui suis gascon saumonné de provençal. Nos rapières,
et il frappa sur la sienne qu'il n'avait pas quittée,
nos rapières veulent savoir ce qu'elles font.
Voilà, ponctua frère Passepoil, qui offrit courtoisement une escabelle au confident de Philippe de Gonzague. Les estafiers approuvèrent chaudement du bonnet. Pérol parut hésiter un instant.
Mes braves, dit-il, puisque vous avez si bonne envie de savoir, vous auriez bien pu deviner. À qui appartient ce château ?
À monsieur le marquis de Quélus, sans Dieu. Un bon seigneur chez qui les femmes ne vieillissent pas.
À Quélus verrou, le château. Après.
Parbleu, la belle finesse, fit bonnement Pérol. Vous travaillez pour monsieur le marquis de Quélus.
Croyez-vous cela, vous autres ?
Demanda Cocardas d'un ton insolent.
Non,
répondit frère Passepoil.
Non,
répéta aussitôt la troupe docile. Un peu de sang monta aux joues creuses de Pérol.
Comment, coquin ?
S'écria-t'il.
Tout beau, interrompit le Gascon. Mes nobles amis murmurent. Prenez garde.
Discutons plutôt avec calme et comme des gens de bonne compagnie.
Si je vous comprends bien, voici le fait.
Monsieur le marquis de Quélus a appris qu'un gentilhomme beau et bien fait pénétrait de temps en temps, la nuit, dans son château, par cette fenêtre basse. Est-ce vrai ?
Oui, fit Pérol.
Il sait que mademoiselle Aurore de Quélus, sa fille, aime ce gentilhomme.
C'est rigoureusement vrai, dit encore le factotum.
Selon vous, monsieur de Pérol, vous expliquez ainsi notre réunion à l'auberge de la Pomme d'Adam. D'autres pourraient trouver l'explication plausible, mais moi j'ai mes raisons pour la trouver mauvaise.
Vous n'avez pas dit la vérité, monsieur de Pérol.
Par le diable ! S'écria celui-ci.
C'est trop d'impudence !
Sa voix fut étouffée par celle des estafiers qui disaient
« Parle, Cocardas ! Parle ! Parle !»
Le Gascon ne se fit pas prier.
« D'abord, dit-il, mes amis savent comme moi que ce visiteur de nuit, recommandé à nos épées, n'est rien moins qu'un prince. »«
Un prince ? » fit Pérol en haussant les épaules. Cocardas continua. « Le prince Philippe de Lorraine, duc de Nevers. »
« Vous en savez plus long que moi, voilà tout, » dit Pérol.
« Non pas, capé des bioux, ce n'est pas tout. Il y a encore autre chose. Et cette autre chose-là, mes nobles amis ne la savent peut-être point. Aurore de Quélus n'est pas la maîtresse de monsieur de Nevers. »«
Ah ah !» se récria le factotum.
« Elle est sa femme !» acheva le Gascon résolument. Pérol pâlit et balbutia.
« Comment sais-tu cela, toi ?»«
Je le sais, voilà qui est certain. »« Comment je le sais, peu vous importe. »« Tout à l'heure, je vais vous montrer que je ne sais bien d'autre. »«
Un mariage secret a été célébré, il y a bientôt 4 ans, à la chapelle de Quélus, et, si je suis bien informé, vous et votre noble maître... » Il s'interrompit pour ôter son feutre d'un air moqueur et acheva. « Vous étiez témoin, monsieur de Pérols. » Celui-ci ne niait plus. « Où en voulez-vous venir avec tous ces commérages ? » demanda-t-il seulement. « À découvrir, répondit le Gascon, le nom de l'illustre patron que nous servons cette nuit. » « Nevers a épousé la fille malgré le père, » dit Pérols. « Monsieur de Quélus se venge, quoi de plus simple ?»«
Rien de plus simple, si le bonhomme Verrou savait. Mais vous avez été discret.
Monsieur de Quélus ignore tout. Capé des bioux. Le vieux matois se garderait bien de faire dépêcher ainsi le plus riche parti de France. Tout serait arrangé dès longtemps si monsieur de Nevers avait dit au bonhomme « Le roi Louis veut me faire épouser mademoiselle de Savoie, sa nièce. Moi je ne veux pas. Moi je suis secrètement le mari de votre fille. » Mais la réputation de Quélus Verrou a effrayé le pauvre prince. Il a craint pour sa femme qu'il adore.
La conclusion, interrompit Pérols. La conclusion, c'est que nous ne travaillons pas pour monsieur de Quélus.
C'est clair, dit Passepoil.
Comme le jour, gronda le cœur.
Et pour qui pensez-vous travailler?
Pour qui? Ah ah, sans Dieu! Pour qui?
Savez-vous l'histoire des trois Philippe?
Non?
Je vais vous la dire en 2 mots. Ce sont 3 seigneurs de bonne maison, capé des bioux. L'un est Philippe de Mantoue, prince de Gonzague, votre maître, monsieur de Pérols. Une altesse ruinée, traquée, qui se vendrait au diable à bien bon marché. Le second est Philippe de Nevers, que nous attendons. Le troisième est Philippe de France, duc de Chartres.
Tous 3 beaux, ma foi. Tous 3 jeunes et brillants.
Or, tâchez de concevoir l'amitié la plus robuste, la plus héroïque, la plus impossible, vous n'aurez qu'une faible idée de la mutuelle tendresse que se portent les 3 Philippe. Voilà ce qu'on dit partout à Paris. Nous laisserons de côté, s'il vous plaît, pour cause, le neveu du roi. Nous ne nous occuperons que de Nevers et de Gonzague, que de Pythias et que de Damon.
Et morbleu ! S'écria Pérols. Allez-vous accuser Damon de vouloir assassiner Pythias ?
Et donc ? Fit le Gascon. Le vrai Damon était à son aise, le Damon du temps de Denis, tyran de Syracuse, et le vrai Pythias n'avait pas 600 000 écus de revenus.
Que notre Pythias à nous possède, interrompit Passepoil, et dont notre Damon est l'héritier présomptif.
Vous sentez, mon bon monsieur de Pérols, poursuivit Coquardas, que cela change bien la thèse. J'ajoute que le vrai Pythias n'avait point une aimable maîtresse comme Aurore de Quélus, et que le vrai Damon n'était pas amoureux de la belle, ou plutôt de sa dot.
Voilà, conclut pour la 2e fois frère Passepoil. Coquardas prit son verre et l'emplit.
Messieurs, reprit-il, à la santé de Damon, je veux dire de Gonzague, qui aurait demain 600 000 écus de revenus, mademoiselle de Quélus et sa dot, si Pythias, je veux dire Nevers, s'en allait de vie à trépas cette nuit.
« À la santé du prince Damon de Gonzague !» s'écrièrent tous les spadassins, frère Passepoil en tête.
« Et donc, que dites-vous de cela, monsieur de Pérols ? » ajouta Coquardas triomphant.
« Rêverie !» gronda l'homme de confiance.
« Mensonge !»«
Le mot est dur. Mes vaillants amis seront juges entre nous. Je les prends à témoin. »«
Tu as dit vrai, Gascon. Tu as dit vrai » fit-on autour de la table.
Le prince Philippe de Gonzague, déclama Pérols, qui essaya de faire de la dignité, est trop au-dessus de pareilles infamies pour qu'on ait besoin de le disculper sérieusement.
Coquardas l'interrompit.
Alors, asseyez-vous, mon bon monsieur de Pérols, dit-il.
Et comme le confident résistait, il le colla de force sur une escabelle en reprenant.
Nous allons arriver à de plus grosses infamies.
Passepoil ?
Coquardas ? Répondit le Normand. Puisque monsieur de Pérols ne se rend pas, à ton tour de prêcher, mon bon.
Le Normand rougit jusqu'aux oreilles et baissa les yeux.
C'est que, balbutia-t-il, je ne sais pas parler en public.
Veux-tu marcher ? Commanda maître Coquardas en relevant sa moustache. « As pas pur. Ces messieurs excuseront ton inexpérience et ta jeunesse. »«
Je compte sur leur indulgence, » murmura le timide Passepoil. Et d'une voix de jeune fille interrogée au catéchisme, le digne prévôt commença. « Monsieur de Pérol a bien raison de tenir son maître pour un parfait gentilhomme. Voici le détail qui est parvenu à ma connaissance. Moi, je n'y vois point de malice, mais de méchants esprits pourraient en juger autrement. » Tandis que les trois Philippe menaient joyeuse vie à Paris, si joyeuse vie que le roi Louis menaça d'envoyer son neveu dans ses terres, je vous parle de 2 ou 3 ans, j'étais au service d'un docteur italien, élève du savant Exili, nommé Pierre Garba.
« Pietro Garba de Gaeté !» interrompit Faenza. « Je l'ai connu. C'était un noir coquin. »
Frère Passepoil eut un doux sourire. « C'était un homme rangé, » reprit-il. Demeure tranquille, affectant de la religion, instruit comme les gros livres, et qui avait pour métier de composer des breuvages bienfaisants qu'il appelait la liqueur de longue vie. Les spadassins éclatèrent de rire tous à la fois.
« As pas pur !» fit Coquardas. « Tu racontes comme un dieu. Marche !»
Monsieur de Pérol essuya son front où il y avait de la sueur. « Le prince Philippe de Gonzague, » reprit Passepoil, venez voir très souvent le bon Pierre Garba.
Plus bas,
interrompit le confident comme malgré lui.
Plus haut, s'écrièrent les braves.
Tout cela les divertissait infiniment, d'autant mieux qu'ils voyaient au bout une augmentation de salaire.
Parle, Passepoil, parle, parle, firent-ils
en resserrant leur cercle. Et Coquardas, caressant la nuque de son prévôt, dit d'un accent tout paternel.
Lou Couquin a doux succès. Capé des bioux.
Je suis fâché, poursuivit frère Passepoil, de répéter une chose qui paraît déplaire à monsieur le Pérol. Mais le fait est que le prince de Gonzague venait très souvent chez Garba, sans doute pour s'instruire. En ce temps-là, le jeune duc de Nevers fut pris d'une maladie de langueur.
Calomnie, fit Pérol. Odieuse calomnie.
Passepoil demanda candidement. Qui donc ai-je accusé, mon maître ? Et comme le confident se mordit la lèvre jusqu'au sang, Coquardas s'ajouta.
« Ce bon monsieur de Pérol n'a plus le verbe si haut, non ?»
Celui-ci se leva brusquement.
« Vous me laisserez me retirer, je pense, »
dit-il avec une rage concentrée.
« Certes, » fit le Gascon qui riait de bon cœur. « Et de plus, nous vous ferons escorte jusqu'au château. Le bonhomme Verrou doit avoir fini sa sieste. Nous irons nous expliquer avec lui. »
Pérol retomba sur son siège. Sa face prenait des tons verdâtres. Coquardas, impitoyable, lui tendit un verre.
« Buvez pour vous remettre, » dit-il, « car vous n'avez pas l'air à votre aise. Buvez un coup, non ? Alors, tenez-vous en repos, et laissez parler le petit Couquin de Normand, qui prêche mieux qu'un avocat en la grande chambre. »
Frère Passepoil salua son chef de file avec reconnaissance et reprit. On commençait à dire partout « Voici ce pauvre jeune duc de Nevers qui s'en va. » La cour et la ville s'inquiétaient. C'était une si noble maison que ces Lorraines. Le roi s'informa de ses nouvelles. Philippe, duc de Chartres, était inconsolable. « Un homme plus inconsolable encore, » interrompit Pérol, qui réussit à prendre un accent pénétré, « c'était Philippe, prince de Gonzague. » « Dieu me garde de vous contredire, » fit Passepoil, dont l'aménité inaltérable devrait servir d'exemple à tous les gens qui discutent. Je crois bien que le prince Philippe de Gonzague avait beaucoup de chagrin. La preuve, c'est qu'il venait tous les soirs chez maître Garba, déguisé en homme de livrée, et qu'il lui répétait toujours d'un air découragé « C'est bien long, docteur, c'est bien long !» Il n'y avait pas dans la salle basse du cabaret de la Pomme d'Adam un homme qui ne fût pas un meurtrier. Et pourtant, chacun tressaillit. Toutes les veines eurent froid. Le gros poing de Coquardas frappa la table. Pérol baissa la tête et resta muet. Un soir, poursuivit frère Passepoil en baissant la voix comme malgré lui, un soir, Philippe de Gonzague vint de meilleure heure. Garba lui tâta le pouls. Il avait la fièvre. « Vous avez gagné beaucoup d'argent au jeu, » lui dit Garba, qui le connaissait bien. Gonzague se prit à rire et répondit.
J'ai perdu 2000 pistoles. » Mais il ajouta tout de suite après. « Nevers a voulu faire assaut aujourd'hui, à l'académie. Il n'est plus assez fort pour tenir l'épée. »
« Alors, murmura le docteur Pierre Garba, c'est la fin. Peut-être que demain... »
Mais, se hâta d'ajouter Passepoil d'un ton presque joyeux, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Le lendemain, précisément, Philippe, duc de Chartres, prit Nevers dans son carrosse et fouette cocher pour la Touraine. Son Altesse emmenait Nevers dans ses apanages. Comme maître Garba n'y était point, Nevers y fut bien. De là, cherchant le soleil, la chaleur, la vie, il passa la Méditerranée et gagna le royaume de Naples. Philippe de Gonzague vint trouver mon bon maître et le chargea d'aller faire un tour de ce côté. J'étais à préparer ses bagages lorsque, malheureusement, une nuit, son alambic éclata. Il mourut du coup, le pauvre docteur Pierre Garba, pour avoir respiré la vapeur de son élixir de longue vie.
« Ah, l'honnête Italien » s'écria-t-on à la ronde.
« Oui, » dit frère Passepoil avec simplicité, « je l'ai bien regretté pour ma part. Mais voici la fin de l'histoire. Nevers fut 18 mois hors de France. Quand il revint à la cour, ce ne fut qu'un cri. Nevers avait rajeuni de 10 ans. Nevers était fort, alerte, infatigable. Bref, vous savez tous que, après le beau Lagardère, Nevers est aujourd'hui la première épée du monde entier. » Frère Passepoil se tut, après avoir pris une attitude modeste. Et Cocardas conclut.
Si bien que monsieur de Gonzague s'est cru obligé de prendre 8 prévôts d'armes pour avoir raison de lui seul, à ce pas pur.
Il y eut un silence. Ce fut monsieur de Pérol qui le rompit. Où tend ce bavardage? Demanda-t-il. À une augmentation de salaire?
Considérable.
D'abord, répliqua le Gascon, en bonne conscience, on ne peut prendre le même prix pour un père qui venge l'honneur de sa fille et pour Damon qui veut hériter trop tôt de Pythias.
Que demandez-vous?
Qu'on triple la somme.
Soit, répondit Pérol sans hésiter.
En second lieu, que nous fassions tous partie de la maison de Gonzague, après l'affaire.
Soit, dit encore le factotum.
En troisième lieu,
vous demandez trop, commença Pérol.
Pécaire, s'écria Cocardas en s'adressant à Passepoil. Il trouve que nous demandons trop.
Soyons justes, dit le conciliant prévôt.
Il se pourrait que le neveu du roi voulût venger son ami. Et alors?
En ce cas, répliqua Pérol, nous passons la frontière. Gonzague rachète ses biens en Italie. Nous sommes tous en sûreté là-bas.
Cocardas consulta du regard frère Passepoil d'abord, puis ses autres acolytes.
« Marché conclu, » dit-il.
Pérol lui tendit la main. Le Gascon ne la prit pas. Il frappa sur son épée et ajouta.
« Voici le tabellion qui me répond de vous, mon bon monsieur de Pérol. À ce pas pur, vous n'essayerez jamais de nous tromper, vous. »
Pérol, libre désormais, gagna la porte. « Si vous le manquez, » dit-il sur le seuil, « rien de fait. »«
Cela va sans dire. Dormez sur les deux oreilles, mon bon monsieur de Pérol. »
Un large éclat de rire suivit le départ du confident. Puis, toutes les voix joyeuses s'unirent pour crier.
« À boire! À boire !»